Ce soir, dans Chronique algérienne, nous allons essayer de revenir sur des moments de l'histoire qui ont été déterminants à la fois pour nous et pour la planète. Nous avons précédemment parlé d'un certain nombre de personnages et d'un certain nombre d'événements vécus par l'Algérie, vécus par des Algériens, et des temps dans lesquels ils vivaient, des luttes qu'ils ont eu à mener, des hommes qu'ils ont eu à combattre, des idées qu'ils ont eu à défendre, des espaces qu'ils ont eu à défendre vainement dans un premier temps, mais bien entendu, comme ce fut le cas pour l'Harb et Tbilissi, qui est né à cette période de grand découpage et qui a été jusqu'au moment où les grands découpages s'effondraient avec la déclaration du 1er novembre 1954. Donc c'est un petit peu toute cette période que l'on avait évoquée, vue et revue, et là, vous vouliez revenir sur tout ce qui est venu un peu avant, tout ce qui a fait la colonisation, qui a fait les assises de la colonisation, qui a déterminé ce grand mouvement abominable du 19e et du 20e siècle, jusqu'au mouvement des indépendances. Mais d'abord, vous vouliez faire une introduction et revenir à la définition de la colonisation.
En parlant de la colonisation, je crois que le phénomène colonial, d'abord, il n'est pas nouveau, il n'est pas contemporain, c'est un phénomène qui a existé il y a très longtemps, pratiqué, mais c'est, disons, son idéologie ou sa doctrine qui a changé. Il a fallu beaucoup de temps pour que s'élabore une doctrine coloniale. Il fallait des repères. Il fallait aussi essayer d'avoir un pied quelque part pour pouvoir prétendre à occuper un pays. Il y a également, ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont les mobiles. Les mobiles qui amènent des peuples, des États à j'allais dire s'épanouir, mais c'était plutôt s'étendre parce que s'épanouir, oui, on s'épanouit chez soi, en s'étend chez les autres. Ce que la colonisation a peut-être a apporté aux puissances coloniales, le bilan est très positif pour ces puissances, il est très lourd, très négatif pour les pays colonisés. Mais je crois que il serait peut-être bon de revoir cela ou de remettre cela dans un contexte historique un peu chronologique, pas trop, pour ne pas avoir l'impression de dérouler un rouleau, mais des points de repère. Et voir dans quelle mesure nous, Algériens, nous nous inscrivons dans tout ce processus, comment l'on a essayé de nous y inscrire, comment on nous y a fixé et comment nous avons essayé de nous en soustraire et de nous en extraire plutôt. Donc, dans ce monde-là, je crois que le point de départ serait 1492, une année très très importante qui commémore ou qui a vu se dérouler deux événements capitaux en même temps et pratiquement le même jour. c'est la découverte de l'Amérique. Et c'est également la chute de Grenade. Donc la chute de l'Empire Omeyyade, ou de l'État Omeyyade d'Occident, en Andalousie, le reflux des musulmans vers les pays de l'Afrique du Nord et surtout vers l'Algérie, nous en avons déjà parlé. C'est également le départ de tout ce qui n'est pas chrétien d'Espagne vers des pays d'Europe et particulièrement vers la Hollande. C'est cette richesse spirituelle et scientifique qui quitte l'Espagne musulmane devenue chrétienne et qui va s'installer soit en Hollande, surtout, et en Algérie. Donc, voilà déjà le premier maillon de la chaîne. La Hollande, donc, va recevoir un certain nombre de réfugiés, surtout des juifs, des érudits, des hommes de science, qui vont permettre à un Descartes d'écrire ou de traduire son discours de la méthode, qui, soit dit en passant, est une œuvre arabe. Et dans le sud de la Méditerranée, donc sur cette façade sud, commence une guerre sans merci. C'est une guerre de revanche, en réalité. Elle ne deviendra coloniale que par la suite. Coloniale pour, non seulement pour toutes les puissances riveraines de la Méditerranée, parce que cette lutte n'est pas seulement politique, elle n'est pas seulement économique, mais elle est surtout religieuse.
Et civilisationnelle.
Et civilisationnelle, effectivement. Parce que si les érudits européens se sont permis de rester dans leur couvent pendant des siècles, à essayer de restructurer la pensée, à essayer de reconstruire le monde,
avec des cohérences.
Tout à fait, et réécrire. Ce qui est important, c'est réécrire l'histoire.
C'est-à-dire retrouver leur fil d'Ariane.
Ils l'ont retrouvé et ils l'ont coupé pour les autres. Ils l'ont coupé pour les autres parce qu'à partir du moment où la culture s'installe, et à partir du moment où le pouvoir trouve toutes les réponses à ses préoccupations dans la culture, il en fait une arme. Et cette arme va être utilisée dans tous les sens et tous azimuts à partir du moment où l'Occident commence son expansion.
Mais justement, pendant cette période, des hommes d'une très haute qualité ont fui l'Espagne. C'était des érudits, de grands techniciens, des gens qui possédaient des techniques dans le cadre de la construction, dans le cadre de l'ensemble des activités dites artisanales, et étaient aussi instruits en mathématiques, en philosophie, en réflexion.
Oui.
Vers où vont partir ces hommes et comment, est-ce qu'on a une idée de la manière dont ils vont être récupérés, la manière dont leurs idées et leur savoir vont être récupérés, inclus et intégrés dans cette cohérence que les moines ont reconstituée?
Les meilleurs vont s'installer en Hollande, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est surtout le pays d'élection, parce qu'il s'y trouve un certain état d'esprit. Ici, on y rencontre la tolérance, Et c'est ce qui attire un peu les gens. La tolérance, d'ailleurs, elle existait aussi bien au nord de l'Europe et dans le sud, puisque le retour des musulmans s'est fait vers les pays d'islam.
Accompagné des juifs aussi.
Assez peu, mais des personnages illustres qui ont rejoint l'Algérie, effectivement. Mais les plus grands sont partis vers la Hollande. Et je peux en citer un, Maïmonide, Moussa ibn Maïmoun, qui, lui, a traduit les œuvres d'Al-Ghazali, par exemple, et particulièrement le discours de la méthode, Mizan al-Amal, qui a servi à Descartes. Bon. Mais notre propos, c'est surtout ce départ vers l'ailleurs. Ce départ qui va avoir comme point initial l'Espagne. Et l'Espagne va partir à la conquête du monde. Elle était déjà partie avant 1492. Ces navigateurs ont essayé de contourner l'Afrique. Ils ont essayé de découvrir de nouveaux mondes. Bon, Christophe Colomb va découvrir l'Amérique du Sud, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Le grand enjeu, c'est d'abord la Méditerranée, parce que c'est le champ stratégique qui fait face à l'Europe et qui met en présence les antagonismes aussi bien religieux, économiques, commerciaux. Tout est uni, tout est présent,
imbriqué
dans cette mer intérieure qu'est la Méditerranée. Les autres espaces, c'est une autre méthode qui va être adoptée, c'est la méthode des grandes compagnies, par exemple. L'Espagne va créer une compagnie des Indes. C'est la mode à partir de Christophe Colomb, puisque Christophe Colomb pensait avoir découvert les Indes orientales, alors que c'était l'Amérique.
Et tout le but était de trouver de nouvelles voies pour aller en Inde en évitant la Méditerranée.
Ben oui, parce que l'islam s'est encore une fois installé. Si la reconquête de l'Espagne avait permis de redonner la Méditerranée à la chrétienté,
Le problème
aurait eu une autre tournure et l'histoire aurait été tout autre. Mais, fait très important même à signaler, c'est que un État musulman tombe à l'ouest, un autre naît à l'est. Puisque, en l'espace de 30-40 ans, puisque la prise de Constantinople, la prise de Byzance, la capitale de la chrétienté
orthodoxe
d'Orient, est prise en 1453. Donc vous voyez que ce n'est...
Tous les événements sont très très proches.
Ils sont très très proches et il était inadmissible pour la chrétienté que les voies commerciales restent encore entre les mains des musulmans. En Extrême-Orient, le commerce était essentiellement musulman. En Méditerranée, qui est l'aboutissement normal
des
voies commerciales, aussi bien par mer que par terre,
venant d'Extrême-Orient,
la Méditerranée était la voie de passage obligée. Donc, le fait que ce qu'on appelle le califat ottoman se soit installé en Anatolie et créé une flotte lui permettant d'avoir une présence effective
en Méditerranée
et massive en Méditerranée
occidentale.
Cela remettait encore en cause les voies commerciales maîtrisées par les républiques de Venise et de Gênes. Donc le danger était là. On est loin de la révolution industrielle.
Non, on n'en
est pas là. On n'en est pas là. Parce que certains expliquent l'expansion coloniale par une évolution démographique, une évolution économique, une accumulation de richesses.
Ouais.
Bon, cela, c'est un autre volet. Parce que le problème démographique n'est pas tellement important. Ouais. On a voulu lui donner trop d'importance alors que la pression démographique n'était pas à ce stade de point de non-retour, où il fallait absolument aller ailleurs, sinon la terre ne pouvait pas nous nourrir. Ce n'est pas vrai. Ça, il y a d'autres... Donc, les Européens, les puissances européennes, voulant suivre l'exemple de Christophe Colomb, sont partis à l'aventure. On a créé des compagnies commerciales. Il y a eu la compagnie des Indes, la compagnie anglaise, la compagnie espagnole, la compagnie portugaise, la compagnie danoise, la compagnie suédoise. Et toutes ces compagnies portaient le nom de compagnie des Indes. Bon, effectivement, celle qui va supplanter tout cela, c'est la compagnie anglaise. La compagnie anglaise parce que les Anglais ont cette particularité, c'est que, d'ailleurs, je crois que nous pouvons faire une petite digression, si nous, on a demandé à un Anglais de définir ou de donner les caractéristiques de la colonisation anglaise, espagnole et française. Il a dit que la colonisation anglaise, là où les Anglais mettent le pied, ils créent un comptoir. Donc c'est le commerce. Là où les Espagnols s'installent, ils construisent une église. Donc pour eux, c'est le problème de la religion. Et pour les Français, on vous dira, là où les Français vont, ils construisent une école. Donc c'est l'expansion d'une part pour les uns est commerciale, l'autre religieuse et l'autre est culturelle. Et donc les compagnies vont travailler. La compagnie anglaise va créer une base en Inde et va commencer...
Son extension
à l'intérieur, aussi bien en Iran que dans les pays du Golfe. En même temps, le gouvernement anglais va réfléchir et mettre sur pied tout un plan qui lui permettra de réaliser ce qu'il appelle la route des Indes. La route classique des Indes passait par le Cap de Bonne-Espérance, donc il fallait faire le tour de l'Afrique. Le canal de Suez n'était pas encore ouvert. Et donc, il fallait trouver une autre voie. Cette voie ne peut passer que par la Méditerranée. Et voilà pourquoi la Grande-Bretagne, qui en principe n'a rien à voir avec la Méditerranée, va entrer en Méditerranée. Et c'est là où les futures puissances coloniales vont faire leurs premières armes dans la lutte sans merci qui va s'ouvrir entre les Espagnols, les Anglais, les Français, face à l'Empire ottoman qui, lui, occupe toute l'Anatolie, une bonne partie de l'Europe de l'Est et les pays riverains de la Méditerranée jusqu'à l'Italie actuelle.
Oui.
Et sur la rive du sud, vous avez toute la façade orientale de la Méditerranée avec la Syrie, le Liban, la Palestine. le Sinaï, l'Égypte, la Tripolitaine, c'est-à-dire la Libye actuelle, la Tunisie et l'Algérie. Rester seul un État indépendant, totalement indépendant et qui ne faisait pas partie de l'Empire ottoman, c'est le royaume du Maroc. Donc, c'est dans cette Méditerranée-là, dans cette mer intérieure, que vont s'affronter toutes les puissances, parce que l'enjeu, c'est le passage. Mais ensuite, on va se dire, bon, puisque on contourne l'Afrique, ben pourquoi ne pas occuper l'Afrique ? Et à ce moment-là, on trouvera non pas une seule voie des Indes, mais on en trouvera plusieurs. Et c'est ainsi que l'idéologie va changer. D'abord,
Et on va passer des voies commerciales à l'installation de comptoirs, à la colonisation de peuplements.
Oui, la colonisation de peuplements, ça également, il faut effectivement tempérer un peu le terme. Dans toute la colonisation, ou plutôt dans toutes les colonisations.
Les colonisations différentes.
Il n'y a eu de peuplement que dans deux directions, pratiquement. Le Nouveau Monde, parce qu'il est trop loin, et ce qui a constitué un peu les 13 colonies anglaises qui ont donné naissance aux États-Unis d'Amérique, et l'Algérie, par sa proximité. D'abord, vous voyez, sont deux extrêmes.
Oui.
On va vers les États-Unis, vers l'Amérique, parce que c'est trop loin. Et donc, celui qui y va, il s'y installe. Et la proximité également est une autre raison qui est valable. Et l'Algérie faisant face immédiatement à la France avec des distances assez courtes, quand même, il ne s'agit pas des distances d'Asie où vous passez d'une ville à l'autre, c'est 2000, 3000, 4000, 5000 kilomètres, tandis que là, il y a 700 kilomètres, 700, 800 kilomètres.
Mais juste avant l'expédition napoléonienne vers l'Égypte, où en étaient les Français ? Est-ce que leur compagnie des Indes, à eux, était importante ? Est-ce qu'ils étaient impliqués dans cette concurrence avec les Anglais d'un côté, les Espagnols, les Portugais ? Ou est-ce qu'elle était, avant la Révolution française, 1789, où est-ce qu'ils en étaient par rapport à ces grands découpages ?
Bon, les Français s'étaient installés en Inde aussi. Ils avaient les cinq comptoirs, les fameux cinq comptoirs, Pondichéry, Yanahon, Chandernagore, etc. Il y en avait cinq. Bon, les Français ne s'étaient pas aventurés à l'intérieur des terres. Bon, l'agression napoléonienne en Égypte était en réalité une tentative de revanche sur les Anglais. Les Anglais avaient déjà à ce moment-là, puisque c'était en 1798-99, le Napoléon était premier consul, n'était pas encore empereur. On était encore à l'âge de la République. Napoléon voulait donner une leçon aux Anglais en essayant d'occuper l'Angleterre. Il s'était lancé tous azimuts en Europe, mais il a constaté qu'il n'avait pas de bonne marine. La France n'avait pas de bonne marine à ce moment-là. Donc il s'est dit, puisque l'Angleterre cherche à créer sa route des Indes, eh bien, je vais aller dans un pays où les Anglais ont une grande convoitise et qu'ils n'occupent pas encore. Donc, essayer de leur couper l'herbe sous les pieds et de là réaliser l'occupation des pays sur lesquels la France a une tutelle morale depuis les croisades, c'est-à-dire faire la jonction entre l'Égypte et la Palestine, la Syrie et le Liban.
Le Liban, oui.
Puisque vous savez que lors des croisades, la France avait reçu mandat du pape et s'était vue désignée comme protectrice des chrétiens du Moyen-Orient, et surtout du Liban et de
Syrie.
De Syrie. Donc, voilà l'occasion de contrer un peu la politique anglaise pour empêcher cette jonction entre le travail de la Compagnie des Indes qui commençait à s'infiltrer dans les pays du Golfe pour venir en Irak et donc faire la jonction jusqu'à la Méditerranée, donc couper cette route venant à l'inverse, et également empêcher les Anglais de réaliser leur route des Indes en Méditerranée. À ce moment-là, les Anglais n'occupaient que Gibraltar et Malte. Ils n'occupaient pas encore Chypre. Donc, à ce moment-là, les Anglais avaient beaucoup de convoitises pour l'Égypte. Mais ils ne s'étaient pas encore déclarés parce que les Anglais jouaient un jeu assez subtil. Ils ne voulaient pas intervenir dans les affaires d'Europe, les affaires européennes. Ils voulaient rester neutres pour qu'on ne s'occupe pas de leurs affaires en Méditerranée et en Extrême-Orient. Donc le fait que Napoléon se soit retrouvé en Égypte va amener les Anglais à prendre position. Et ils informent le calife ottoman des desseins profonds de Napoléon. Et donc le calife ottoman va envoyer une flotte contre les Français en Égypte, dans laquelle il y aura également des navires anglais. Et ce sera la bataille d'Aboukir. Cette bataille d'Aboukir, qui se situe autour de 1799, est un désastre pour Napoléon, qui perd sa marine. Le peu de marine qu'il avait, le voilà, il le perd. Donc il est prisonnier de sa propre conquête. C'est ce qui va l'amener à partir à Saint-Jean d'Acre et essayer donc de conquérir un peu de terrain sur l'Empire ottoman. Et là également, il va encore être battu par les Ottomans. Et ce sera le départ, puisque les affaires intérieures en Europe et en France évoluaient très mal et Napoléon s'en va. Ceci est un prélude à toute une doctrine coloniale qui va s'établir aussi bien chez les Anglais que chez les Français.